décryptage. Véronique Rigolet.
Bonsoir à tous. Dans Décryptage ce soir, l'anatomie de cette chute annoncée, celle bien sûr du gouvernement Barnier, que l'Assemblée nationale, en pleine effervescence, s'apprête à censurer. Sauf revirement spectaculaire, le Premier ministre devra faire ses cartons ce soir, moins de trois mois après son arrivée à Matignon. Situation quasi inédite sous la Ve République, bousculée, en proie à l'instabilité depuis le coup de tonnerre de la dissolution en juin dernier. Avis de gros temps, désormais pour le pays, la France va-t-elle plonger dans une zone de turbulence politique, mais également financière et économique ? Et surtout, comment sortir de ce blocage institutionnel ? On en parle ce soir avec nos invités à mes côtés dans ce studio, Dorian Dreuil, politologue, expert associé à la Fondation Jean Jaurès. Bonsoir. Bonsoir. Thibaut Mullier, maître de conférence en droit public à l'Université Paris-Nanterre, auteur de « Les relations extérieures de l'État en droit constitutionnel français », ouvrage paru aux éditions Mare et Martin. Et également avec nous, Valérie Gasse, chef du service politique. Bienvenue à vous, merci bonsoir, de nous rejoindre bonsoir. Sur RFI. Dorian Dreuil, on entendait hier le président et le Premier ministre dire qu'ils ne croyaient pas à la censure. Est-ce qu'un revirement dernière minute de Marine Le Pen est vraiment envisageable ou complètement improbable ?
Bon, c'est assez improbable. Toutefois, tant que c'est pas voté. Et ça, c'est toujours la prudence. Je pense qu'il faut s'imposer d'une certaine manière quand on commente ou analyse ce genre de moment assez inédit. Il faut se l'imposer d'autant que la rationalité politique et institutionnelle a quelque peu disparu de notre vie et champ politique depuis quelques mois. On vit dans une succession d'événements qui vont à la fois à contresens de la logique institutionnelle, voire parfois de la logique démocratique, d'une certaine manière, et donc une difficulté à quand même avoir de grandes certitudes politiques.
Depuis la dissolution.
En revanche, ce qui est peu surprenant, c'est d'arriver à cette situation-là aujourd'hui. On est en fait à la fin du film dont on connaît déjà le générique. Et ça, depuis le début, ça n'était pas parti sur de bons rails, si on peut le dire autrement. Il n'y avait pas d'autre solution pour le gouvernement Barnier que de déclencher l'article 49 alinéa 3, pour une raison assez simple, c'est qu'à partir du moment où vous n'avez pas de majorité ou une majorité si relative pour composer votre coalition gouvernementale, il est quasiment impossible d'en trouver une sur un texte budgétaire qui est peut-être de toutes les lois possibles dans l'hémicycle l'une des plus clivantes et polarisantes.
Thibaut Mullier, c'est une situation inédite à l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est une nouvelle épreuve pour la Ve République qui en a connu d'autres, vous me direz ?
Inédite non, puisque on a déjà eu une seule fois, donc c'est quasi inédit, une censure d'un gouvernement en 1962 avec Georges Pompidou. Mais quand même, ça met à rude épreuve la pratique institutionnelle qui s'est, et nous avec, beaucoup habitués à une relative stabilité, à un Parlement, ou en tout cas une Assemblée nationale qui adopte relativement facilement des textes selon la volonté du gouvernement et, il faudrait dire en réalité, du président de la République hors cohabitation. Et là, on est confronté à quelque chose de nouveau qui n'était pas totalement imprévu par les constituants de 58, parce que en 58 on est convaincu qu'on n'aura pas de majorité absolue ou des gros blocs majoritaires. Ça apparaît dès 62, mais on avait le traumatisme des 3e et 4e républiques, et là on est confronté à trois forces politiques relativement homogènes qui en fait n'arrivent pas à se mettre d'accord. Et en ligne de fond, un point commun malgré toutes les différences avec 62, c'est qu'in fine quand même celui qui est visé, c'est le président de la République. En 62, c'est De Gaulle qui est visé à travers Pompidou parce qu'on s'oppose à l'élection, enfin à la révision qu'il souhaite pour élire au suffrage universel direct le président de la République. Et là, in fine, même si le budget est un texte politique et très clivant, on attaque in fine le président de la République.
Comme le disait Dorian Dreuil, pour Barnier, sans majorité à l'Assemblée nationale, c'était mission impossible.
Mission difficile, mission impossible, a priori non, parce qu'on a des outils de rationalisation du gouvernement, du parlementarisme qui permet finalement à un gouvernement qui n'a pas beaucoup de majorité absolue ou qui n'en a pas du tout, eh bien d'agir. Soit en prenant appui sur le Sénat, hein, Michel Debré, quand il présente les institutions en 58 devant le Conseil d'État, rappelle que le Sénat est là pour eh bien, compenser, donner de la stabilité face à une Assemblée qui est anticipée comme assez éclatée. Et puis on a des mécanismes, par exemple, si on n'arrive pas, le Parlement n'arrive pas à se prononcer dans un délai de 50 jours ou 70 jours, si c'est le budget de la Sécurité sociale ou le budget de l'État, eh bien on peut agir par voie d'ordonnance sans vote.
La Constitution est solide, il y a des mécanismes, dites-vous, mais il y a surtout un manque peut-être de culture du compromis. Hein. Ce n'était pas à ce point prévu visiblement par la 5e. On reste dans le fait majoritaire, c'est ce qu'on a pu voir ces derniers jours,
alors,
ces dernières semaines.
On n'est pas dans le fait majoritaire puisqu'il n'y en a pas, mais on fait comme si... Enfin, j'ai le sentiment qu'on n'a pas encore changé de logiciel. Est-ce que la Constitution ne prévoit pas le compromis ? Je ne pense pas que ce soit son rôle. En tout cas, avec les mécanismes de rationalisation, elle permettait de mettre cette question comme un second problème. Mais surtout, en fait, on ne fait pas de compromis parce que les acteurs, et ils le montrent encore... Le RN et LFI en premier lieu et le bloc central, enfin à travers M. Attal, mais on est omnibulé par la présidentielle et on a l'impression que le seul moyen de sortir d'un début de crise peut-être ministérielle ou parlementaire, eh bien c'est d'aller du côté du président et cette croyance très 5e République, et on est tous traversés par cela, que c'est la clé, c'est le président de la République et les acteurs. Force est de constater, depuis juillet, n'ont pas infléchi leur représentation et leur croyance sur cela. La solution, on croit toujours que c'est le président. Moi, je suis très sceptique sur cette vision des choses.
Voilà, une question pour Valérie Gasse. Comment comprendre la stratégie de Marine Le Pen, qui a été pourtant assez bien traitée par le Premier ministre? Elle a obtenu pour à peu près 4 milliards d'euros de concessions. Comment expliquer qu'aujourd'hui, le Rassemblement national va voter une motion déclenchée par les insoumis de LFI?
Alors, ils ont déposé eux-mêmes une motion de censure qui ne sera pas votée par la gauche. Donc, le seul moyen de faire tomber le gouvernement, ce sera en effet d'utiliser ce qu'elle a appelé l'outil de la motion de censure du NFP pour pouvoir arriver à ses fins. Pour rebondir sur ce qu'on disait avant, la 5e République prévoit le 49-3 pour faire passer un budget, même sans majorité, en effet, et c'est un outil qui a été utilisé. Le pari de départ d'Emmanuel Macron en nommant Michel Barnier et de Michel Barnier, c'est qu'il arriverait à échapper à la censure. Et justement,
c'est raté, hein.
C'est raté, parce que justement, ce que vous disiez, Véronique, Marine Le Pen a changé de pied, lui avait laissé un petit délai quand il a été nommé en disant on va voir ce que ça donne. Et puis là, finalement, alors on dit beaucoup que c'est après son procès où les réquisitions étaient très sévères, elle est menacée d'inéligibilité, qu'elle s'est fâchée et qu'elle a changé sa stratégie, qu'elle ne tient plus autant à la respectabilisation, mais qu'elle veut montrer que c'est elle la reine de l'Assemblée, qu'elle a le droit de vie et de mort sur le gouvernement et que c'est ça qui est maintenant plus important politiquement pour elle que ne pouvait l'être cette stratégie qu'elle avait mise en place avant, en sachant que ses électeurs, sa base, réclament en effet une censure et plutôt favorable. Donc tout ça combiné a amené à ce revirement.
Doran Dreuil, c'est vraiment sa situation judiciaire qui pousse Marine Le Pen à rompre après des années à tenter de normaliser son parti, à le recentrer pour en faire un jour un parti de gouvernement, à votre sens ?
Il y a elle est d'une certaine manière prise en tenaille entre deux injonctions un peu contradictoires. La première, c'est effectivement la normalisation institutionnelle, ne pas participer au chaos politique, au chaos institutionnel. Et la deuxième...
Elle en avait l'occasion.
Elle en avait l'occasion, mais le deuxième élément qui bouleverse un peu cette stratégie, c'est son électorat. Son électorat qui a beaucoup changé, dont les perceptions ont beaucoup changé ces dernières semaines. Il y a trois semaines, on est passé quasiment du simple au double dans les, notamment quelques enquêtes Elab qui le montraient, qu'elle avait un électorat qui n'était pas pour la motion de censure et qui a quasiment doublé. Et c'est la difficulté de Michel Barnier, c'est beaucoup une histoire de timing, c'est-à-dire qu'il y a à la fois cette nouvelle méthode qu'il propose, et il n'y en a pas 3000 à inventer, même si la promesse du changement de méthode est régulière, voire tous les 6 mois, c'était de laisser le débat se faire, pas activer l'article 49 alinéa 3 dès le début de l'examen, et de respecter la démocratie parlementaire et le temps parlementaire, et de laisser les débats se faire. À 2 semaines près, on rentre dans des collisions de divers des colères, avec une colère sociale qui monte, des opinions qui changent et qui cristallisent autour de Marine Le Pen. Donc, d'une certaine manière, on pourrait presque dire que tout le monde se tenait par la barbichette et au bout d'un moment, ça a dérapé. Et tout le monde s'est retrouvé entraîné dans cette espèce de course folle où aucun des acteurs n'a réussi à tirer le frein à main. Mais ce qu'il y a d'intéressant et ce qui est révélateur dans cette crise, au-delà de est-ce que ce gouvernement chute et lequel va le remplacer, c'est que 62, on disait, la motion de censure, elle est acceptée, elle est votée parce qu'il y a un refus du présidentialisme. Là, cette motion de censure risque d'être votée parce qu'il y a une incapacité des élus et du politique à entrer dans le parlementarisme, où on fait tout à l'envers. Et même là, on recommence à faire tout à l'envers. C'est-à-dire que le gouvernement n'est pas encore tombé, qu'on cherche qui qui va pouvoir être...
On cherche le Premier ministre avant de trouver la coalition.
La question, c'est le quoi. Comme dans toutes les démocraties parlementaires qui nous entourent, tous les copains autour de nous y arrivent, on devrait pouvoir le faire, à prendre un peu de temps pour trouver un accord de gouvernement, une méthode, un calendrier, et aller négocier des compromis texte par texte.
Est-ce que vous pensez, comme Thibault Mullier, que c'est derrière le gouvernement et la personnalité de Barnier, c'est le président qui est directement visé par cette motion de censure ?
Oui, et c'est d'ailleurs une stratégie assez claire. À peine le mot censure commençait à être évoqué, que le mot démission du président de la République allait de pair. Et donc, on a vu ces 15 derniers jours dans l'espace médiatique s'installer l'idée que une solution de sortie de crise était la démission d'Emmanuel Macron.
Et c'est débat qui monte au-delà du RN et de LFI. On voit des figures de l'ancien patron de la droite, Copé, des centristes comme Courson, comme Morin, qui réclament cette démission comme étant une solution au blocage actuel.
Ce qui est quelque peu saugrenu, parce que le président de la République a une légitimité démocratique sur son mandat. Et donc expliquer que éviter le chaos institutionnel, c'est en recréer un, ça paraît une sortie de crise assez difficile. Mais là aussi, ça dit toute notre dépendance toxique à la figure du président de la République et cette incapacité à imaginer que la politique peut s'exercer autrement qu'avec une personnalité qui a quasiment des pleins pouvoirs et qui n'en est pas responsable. Et donc, ce faisant, En entraînant cette stratégie, en faisant monter cette tension autour de la démission du président de la République, les politiques montrent par eux-mêmes leur incapacité à imaginer d'autres pratiques démocratiques et surtout à changer de culture politique. Et ce qui est en décalage avec des attentes de l'opinion. Quoique ça change un peu, parce que devant le psychodrame de ces derniers mois, bon, les gens se disent même plus démocratie parlementaire, ça n'en vaut plus la peine. Mais il y a quand même une volonté dans l'opinion, et ça on le voit depuis de nombreuses années, à voir demander une évolution de nos institutions pour avoir un autre fonctionnement politique.
C'est pas gagné. Le président, en tout cas, qui refuse tout net de démissionner, hein, il l'a redit hier, et de fait, rien ne l'y oblige, si ce n'est peut-être un chaos politique à venir, Thibault Mullier.
En tout cas, sur le plan constitutionnel, aucune disposition ne lui imposerait, dans telle ou telle hypothèse, de démissionner. C'est vraiment son libre arbitre dans le délai de 5 ans de son mandat. Après, c'est avancé par les acteurs actuellement comme un moyen de sortie de crise, sous réserve qu'on accepte qu'on soit vraiment en crise de régime. Et dans cette perspective-là, la constitution de la Ve République avait installé le président de la République comme une sorte d'arbitre au-dessus de la mêlée, selon la formule d'usage. Et l'idée, c'était que le référendum, la dissolution étaient parmi d'autres des moyens de surmonter une crise et de corriger les errements des troisièmes, vus comme des errements sous les troisièmes et quatrièmes républiques. Et là, puisque la dissolution n'est juridiquement pas envisageable et que le référendum, je ne suis pas certain que il soit un moyen de faire sauter un peu la pression ou la soupape de décompression, c'est la solution qui est avancée. Mais je rejoins ce qui a été dit par Dorian. Finalement, à la fin, les acteurs montrent qu'ils sont drogués, nous avec, je pense, mais drogués au présidentialisme, On n'a pas encore compris, depuis 2022, c'était déjà un effet annonciateur, mais depuis la dissolution, que eh bien, le présidentialisme, ce n'est pas fini, mais qu'une autre voie de méthode de gouvernement est possible, et que, eh bien, il faut que les acteurs, c'est là peut-être où il y a une crise, c'est que les acteurs, les personnes qui sont actuellement en responsabilité, au gouvernement comme dans les assemblées, eh bien, sont les héritiers d'une pratique présidentialiste et d'un fait majoritaire relativement confortable, et ils ne veulent pas en sortir d'une part. Et je me demande parfois s'ils sont prêts à en sortir, s'ils sont capables d'en sortir.
Dorian Dreuil, comment on fait dans ce cas pour ne pas que l'histoire soit condamnée à se répéter après la chute de Barnier? Comment on fait en sorte que le prochain ou la prochaine première ministre puisse gouverner?
C'est en réalité assez simple. C'est assez simple en théorie. Alors en théorie, tout est facile. Mais quand on reprend le fil de la logique démocratique et institutionnelle que le moment et la composition de l'Assemblée, d'une certaine manière, imposent, ça demande d'abord au président de la République de ne pas lui-même composer la coalition. Ce n'est pas son rôle, il n'en a pas la capacité. Il doit laisser l'Assemblée nationale, le Parlement, lui-même, trouver la coalition qui pourra tenir dans le temps et gouverner. La deuxième étape, c'est du côté de l'Assemblée nationale, savoir qui peut travailler avec qui et surtout sur quoi avant de trouver le qui. Et donc le quoi, bah c'est, comme on l'a vu il n'y a pas si longtemps que ça chez nos voisins allemands par exemple, et bah c'est s'enfermer dans une pièce pendant de longues heures de réunion où on négocie mot par mot, virgule par virgule, quelles vont être les réformes que la coalition portera, dans quel calendrier, avec quelle méthode et de quelle manière. Et après, on cherche à négocier, à trouver le compromis avec d'autres groupes. C'est normalement cette logique-là qui devrait prévaler. Et il peut y en avoir une troisième, qui va être complémentaire, qui est d'ajouter aussi de la participation citoyenne ou d'utiliser des outils d'innovation démocratique qui peuvent être complémentaires de la démocratie représentative. Surtout à un moment où, quand on pêche à trouver des majorités dans l'Assemblée, on peut essayer d'aller en chercher dans la société sur des sujets qui sont des sujets de fond qui animent l'opinion depuis maintenant des décennies. La fiscalité, par exemple, la question démocratique, le fonctionnement de nos institutions, le rapport au pouvoir politique, tout ça sont des sujets qui pourraient être débattus plus largement en dehors des enceintes du Palais Bourbon.
Vous dites, Dorian Dreuil, il va falloir innover, il va falloir apprendre l'art du compromis à l'allemande, mais le temps presse et le président, lui, se fait fort de trouver un Premier ministre avant samedi prochain. Ça ne va pas totalement dans cette logique de réflexion, Valérie Gaffe.
Non, mais en même temps, il n'a pas le choix, parce qu'il ne peut pas laisser la crise s'installer. Il a choisi Michel Barnier, ça a duré 3 mois et ça va capoter. Donc le président, malgré tout, il sait que le jalon d'après, le fusible d'après, c'est lui. Donc il faut qu'il donne l'impression d'être prêt et de reprendre l'initiative avec un nouveau gouvernement. Sur ce qui va se passer après et sur ce que disait Dorian Dreuil, le qui, c'est aussi faire travailler sur un projet, éventuellement sur quelques textes, LFI et l'ERN. C'est définir quel est l'arc qui est dans l'arc républicain. Et sachant que la gauche a une alliance avec LFI à l'intérieur qui est un irritant, même pour le socle commun, que le RN est exclu et est un groupe très important à l'Assemblée nationale. Donc, de fait, les deux sont mélangés et on ne voit pas comment on peut en sortir.
Un Premier ministre avant samedi prochain, avant l'inauguration de la réouverture de Notre-Dame, c'est une urgence
C'est une urgence. C'est juridiquement possible,
oui,
mais c'est juridiquement aussi, on peut maintenir une sorte de gouvernement démissionnaire. Dès lors qu'il sera censuré, il sera considéré juridiquement comme démissionnaire, et là, on sera dans une situation où il pourrait gérer les affaires courantes. Mais on revient toujours au même problème, qui n'est pas de la pratique, mais aussi dans le texte, c'est l'irresponsabilité du président de la République sur cette question. Il fait ce qu'il veut sans rendre de compte.
Voilà, et ça sera le mot de la fin, en tout cas pour cette séquence-là, car il y en aura d'autres. Merci à vous, Dorian Dreuil, politologue, expert associé à la Fondation Jean Jaurès, Thibault Mullier, maître de conférence en droit public à l'Université Paris-Nanterre, auteur de Les relations extérieures de l'État en droit constitutionnel français. C'est paru aux éditions Marc et Martin. Merci également à Valérie Gaffe, chef du service politique à RFI. Dans la série des merci, il n'y en a jamais trop. À Sigrid Azerwal, à la cellule invitée et à la réalisation ce soir, Valentin Vanner.